Bonjour Lisa Baudet, merci à vous. L'inactualité reprend l'antenne sur Europe 1. On est ensemble jusqu'à 16h qui vivent. C'est parti.
Europe 1, 15h, 16h, qui vivent. Raphaël Antoven.
Enfant, le Père Noël existe puisque ce sont vos parents qui vous le disent. C'est à la croyance dans le Père Noël que se consacre aujourd'hui qui vive ce 24 décembre 2016, alors qu'il est ce soir dans toutes les chaumières. Enfin, pas toutes les chaumières. Et ça, c'est quand même un problème. Qui est ce drôle de vieux qui ne fait pas de cadeaux à tout le monde? Et, pardon, comment s'y prend-il pour contenter tant de gens en si peu de temps? On vous ment par omission, les enfants, si sans vous en dire trop, on ne pose pas aussi ces questions-là.
Le Père Noël doit se déplacer très vite pour livrer tous ses cadeaux en temps et en heure. À quelle vitesse? Eh bien, en estimant à la louche à 300 millions le nombre d'enfants qui fêtent Noël dans le monde, enfants répartis dans 85 millions de foyers, on arrive au pifomètre à un total de 110 millions de kilomètres à parcourir autour du globe. Voici devant vous une simulation de la trajectoire du Père Noël, zigzagant en Europe au milieu du trafic aérien. Pour tenir le rythme, Papa Noël doit visiter la bagatelle de 800 baraques à la seconde, ce qui lui laisse à chaque fois 1,2 millisecondes pour garer le traîneau, poser les cadeaux, manger et boire les horreurs qu'on lui a laissées, avant de repartir dardard. Ce type devrait bosser chez Chronopost.
Il devrait bosser chez Chronopost. Bonjour Gilles Verviche.
Bonjour.
Bonjour. Comment ai-je pu croire au Père Noël? Philosopher au quotidien, ça c'est le sous-titre. Oh. C'est votre livre, c'est paru aux éditions Max Milo. Et c'est tout à fait très bien et très utile en cette période votive et festive. On vient d'entendre un extrait de l'excellente chaîne YouTube Balade Mentale qui fait valoir le fait que le Père Noël doit parcourir la bagatelle de 110 millions de kilomètres, c'est-à-dire 800 baraques à la seconde, enfin 800 maisons à la seconde. Ouais. Bref, qu'il devrait rester en gros à peu près 1,2 millisecondes dans chaque endroit qu'il alimente en cadeau. Comment fait-il, vous qui avez bossé sur ce sujet, comment ce surhomme fait-il pour accomplir une telle tâche?
Alors, il y a deux explications, peut-être, scientifiques et philosophiques.
On est uniquement dans la science, donc allez-y.
Alors, scientifique, moi, dans le petit livre que j'avais fait, le petit chapitre que j'avais consacré à ça, j'avais fait remarquer qu'un proton se déplaçait aussi très très vite et que, par exemple, il peut parcourir 27 kilomètres 11 000 fois par seconde. Donc, il y a des choses qui
Proton va beaucoup plus vite que le Père Noël.
Le proton va beaucoup plus vite. Donc, nous, humains qui sommes dépassés par l'infiniment grand et l'infiniment petit, peut-être qu'on est incapable de se rendre compte des pouvoirs du Père Noël. Hein.
Donc, en fait, le Père Noël est une sorte de super proton, mais de mini proton.
Proton barbu. Voilà, un proton barbu. Alors ça, c'est la question scientifique qui m'avait assez amusé. Après, d'un point de vue, si on rapproche le Père Noël, on en parlera peut-être d'un dieu. Vous savez qu'on dit aux petits-enfants que Dieu est partout en même temps et que donc il n'a pas de problème d'espace et de temps, donc c'est ce qui réglerait la question, c'est-à-dire qu'en fait il est partout en même temps. Quoi.
Mais pardon, sur Dieu, restons sur Dieu un instant, ce qui est un sujet comme un autre, mais pas inintéressant non plus. Restons sur Dieu un instant, on tient deux discours aux enfants sur Dieu. Le premier, c'est de dire que Dieu est partout, Dieu est dans toute chose, Dieu est dans chaque acte d'amour, naturellement.
Dans chaque cœur.
Chaque cœur. Mais le second discours est aussi de dire que Dieu est au-dessus de nous, au-delà de nous, et que de son œil panoptique, il observe et il voit tous les phénomènes. Il y a deux discours sur Dieu. Un Dieu qui est sur l'Olympe, tout en haut, et un Dieu qui est mêlé à nous. Est-ce que à quelle forme de divinité le Père Noël appartient-il?
On retrouve la contradiction, je pense, d'un dieu entre des philosophies qui veulent parler d'un dieu, comme on dit, immanent, c'est-à-dire qui est dans le monde, et puis un transcendant,
et non pas transcendant,
transcendant
c'est ça.
Qui dépasse le monde. Manifestement, entre les différentes courants philosophiques ou religieux, comme on veut, tout le monde s'y perd un petit peu. Le Père Noël, c'est quand même une personne. C'est quand même une personne qui est peut-être pas transcendant. Alors son Olympe, c'est peut-être la banquise, le pôle Nord là-haut. Je pense qu'il fait quand même plutôt partie du monde.
Alors justement, c'est ça qui est important. Pardon, il fait partie du monde. L'une des différences, elles sont pas nombreuses, entre Dieu et le Père Noël, c'est que on a beaucoup plus d'informations en matière de surnaturel et d'immuabilité sur le Père Noël que sur Dieu. On s'accorde plus volontiers sur la personnalité du Père Noël que sur la personnalité de Dieu. D'ailleurs, les interviews du Père Noël fourmillent. Écoutez-en une.
Bonjour Père Noël.
Bonjour.
Tout d'abord, Père Noël, pourriez-vous nous expliquer une chose? On vous appelle aussi Yolopuki. Mais qu'est-ce que Yolopuki veut bien dire? Est-ce votre vrai nom?
Yolopuki veut dire Père Noël en finnois. En Finlande, on m'appelle Yolopuki. Dans d'autres pays, on m'appelle Santa Claus. Certains m'appellent même grand-père Noël. Mais tu peux m'appeler Yolupuki, Père Noël, comme tu veux.
Depuis combien de temps vivez-vous ici en Laponie?
Depuis très très longtemps. Comme on disait dans le temps, nous avons vu des centaines de lunes depuis mon arrivée en Laponie.
Europe 1, qui vive? Raphaël Antoven.
Moi, c'est le rire du Père Noël, Gilles Verviche, qui me fait toujours un drôle d'effet. J'ai toujours un petit doute sur le rire du Père Noël, le ho ho ho.
Oui,
le fait qu'il mette le H avant le O donne un peu le sentiment d'un rire forcé, une contrefaçon de rire, une sorte de un rire qui joue à ressembler à un rire. Pourquoi est-ce que le Père Noël se déguise en Père Noël comme ça?
Pourquoi il se déguise en Père Noël? Je sais pas. C'est la couleur déjà est sujette à caution. Hein. Je crois que le Saint-Nicolas était plutôt vert, et je crois savoir que c'est Coca-Cola qui l'a mis en rouge. Après, le O O O peut faire peur aux enfants. C'est assez étrange. Il est censé les récompenser, pas en tant que philosophe, mais en tant que père. Là, j'ai une petite fille. Elle a plutôt peur du Père Noël en fait. Et quand elle entend ce ho ho ho, ça lui fait peur. Elle sait qu'il va lui donner des cadeaux, mais le personnage lui fait peur quand même. Mais ce qui était intéressant dans ce qu'on a entendu, c'est qu'on retrouve les mêmes questions que pour le coup sur Dieu. Là, vous êtes là depuis quand? Depuis très très longtemps. Quand je suis arrivé, alors on sait pas d'où il venait déjà. Qu'est-ce qu'il faisait avant? Qu'est-ce qu'il faisait Père Noël avant d'être Père Noël et avant d'être vieux aussi? Hein, voilà, il y a quand même une notion un peu d'éternité.
Oui, c'est comme
hein.
S'il était né en s'appelant Simone, au fond, comme s'il était vieux depuis
voilà,
toujours.
Voilà, c'est un peu Benjamin Button là, le film là, il serait peut-être né avec une barbe blanche.
Oui, sauf que Benjamin Button meurt nourrisson. Alors
voilà, le Père Noël
d'abord ne meurt pas.
Voilà, il est un peu éternel quand même, ouais. Et il a cette barbe blanche quand même, hein, c'est typiquement l'image qu'on pouvait se faire de Dieu quand on voulait se le représenter.
Comment expliquer, il y a des lettres bouleversantes des enfants au Père Noël, merci pour les cadeaux de l'année dernière, ou bien cette année j'ai été bien gentil, je mérite telle ou telle chose. Comment expliquez-vous ce système de récompense au fond qui vaut aux enfants de suspendre leur vertu à l'hypothèse d'une récompense justement de la part du Père Noël? Au fond, le Père Noël, c'est cette entité qui vient salarier la vertu des enfants une fois par an. Est-ce que ça ne laisse pas entendre qu'au fond les enfants ne seraient sages que pour avoir des cadeaux, ce qui, s'ils n'ont pas de cadeaux, laisse entendre qu'ils ne seraient pas sages du tout?
Voilà. Je pense que c'est tout à fait normal. Moi, je pense que c'est une période de l'éducation d'un enfant. Comme toute discipline, enfin, je veux dire, au départ, on va pas lui apprendre à faire son devoir ou être vertueux pour être vertueux, mais toujours avec un système de récompense ou de châtiment. Tu vas au coin, enfin, c'est comme ça qu'au départ, on parle de discipline, après d'éducation, et puis c'est seulement arrivé à l'âge de raison que l'enfant va commencer à se dire qu'il va falloir agir bien parce que c'est bien et de ne pas agir mal parce que c'est mal.
En peu de mots, le Père Noël correspond à un moment du développement de l'existence où la vertu obtient un coup de carotte et de bâton.
Voilà, vers une phase de transition vers l'autonomie, quoi.
Compte, comptine et comptabilité, carottes et bâtons, c'est du Père Noël que nous vous parlons aujourd'hui dans Qui Vive, en compagnie du philosophe Gilles Verviche, auteur de « Comment ai-je pu croire au Père Noël ?», sous-titre « Philosopher au quotidien », c'est paru chez Max Milo. Tiens, une autre comptine tout de suite sur Europe 1 d'ailleurs, « Le Père Noël noir », l'une des meilleures chansons de Renaud qu'il faut écouter au moins une fois par an.
Ça faisait pourtant un an ou deux que je croyais plus du tout en lui. Pas plus que je croyais au bon Dieu d'ailleurs, ou à la semaine des 35 heures. N'empêche que bon, par acquis de conscience, j'ai mis mes sentiailles devant la cheminée. Vu qu'on était le 24 décembre, peut-être que le Père Noël se pointerait, hein, à savoir. Alors il est bienvenu, mais manque de bol, dis donc. Avec l'antenne de la télé, il s'est emmêlé les quiboles et s'est vautré dans la cheminée. Il s'est rétamé la gueule par terre sur ma belle moquette en parpin. Il y avait de la suie et des molaires, le Père Noël est un crétin. Petit Papa Noël, toi qui es descendu du ciel, retourne-y vite fait bien fait, avant que je te colle une droite, avant que je t'allonge une patate, que je te fasse une tête au carré. Je lui avais demandé comme cadeau une panoplie d'agents de police, une super boîte de mécano, une carte du Parti Socialiste. M'a carrément amené peau de balle, n'avait pas dû recevoir ma lettre. J'avais peut-être pas mis le code postal qui correspond à sa planète. N'empêche qu'il s'est pas gêné, il m'avait déjà ruiné la moquette. Dans le canapé s'est écroulé pour se piquer la ruche à la nisette. Il m'a descendu la bouteille, à lui tout seul le saligo. Avec le pinard l'a fait pareil, le Père Noël est un poivreau. Petit Papa Noël, toi tu es descendu du ciel. Retourne-y vite fait, bien fait, avant que je te colle une droite. Avant que je t'allonge une patate, je te fasse une tête au carré. Il était bourré comme un polac, le mec Guidon. Il a fait un boucan d'enfer. Il a fouillé toute la baraque en chantant des chansons vulgaires. Il a ravagé mes plantations, toute ma récolte de, d'herbes de Provence. Veuillez me passer l'expression, il a gerbé dessus. Quelle élégance! Il s'est barré vers 5 plombes du mat avec mes bottes, mon blouson, tout ça. Il m'a chouravé aussi ma gratte. Il m'a juste laissé le boxon. Gonflé le mec, hein. Heureusement que ma femme était pas là, je vais te dire heureusement, parce qu'il serait barré avec, hein, il serait pas gêné. Je veux plus jamais le voir chez moi, le Père Noël, c'est un pauvre mec. Petit Papa Noël, toi tu es descendu du ciel, retourne-y vite fait bien fait, avant que je te colle une droite, avant que je t'allonge une patate, que je te fasse une tête au carré. Petit Papa Noël, toi tu es descendu du ciel, retourne-y vite fait bien fait, avant que je te colle une droite. Avant que je t'allonge une patate, je te fasse une tête au carré, les casse-toi. Arrache-toi de là. Parce que d'abord, je te signale que t'es même pas un vrai Père Noël. T'es un vrai cambrioleur, oui.
Père Noël. Combien d'enfants ont ri, pleuré de rire, qu'ils croient ou non au Père Noël, en répétant tête au carré à l'unisson du chansonnier qui les aime tant. Renaud sur Europe 1 et Qui Vive, qui revient dans un instant.
Qui Vive, Raphaël Antoven.
Il existe, chers auditeurs, des mécréants, figurez-vous, aux yeux de qui Dieu n'existe pas. Mais quelle drôle d'idée! Et quelle meilleure preuve de l'existence de Dieu que les crimes ou les bienfaits qu'on a commis en son nom? Comment dire d'un être au nom duquel on s'aime ou on s'entretue depuis la nuit des temps qu'il n'existe pas? Et le Père Noël alors? Qui osera dire que l'homme au nom duquel on décore les sapins n'existe qu'au titre d'une décoration? Erreur et folie, il faudrait à ce compte-là nier l'existence de n'importe quel héros de roman.
C'est moi, le Père Noël. Tous les enfants peuvent me téléphoner. Écoutez bien mon numéro.
36 65 65 65. C'est fou comme il faut être optimiste quand même, Gilles Verviche, pour téléphoner au Père Noël, pour appeler le Père Noël. Tomber d'ailleurs inlassablement sur son répondeur. Ouais. La différence entre le répondeur de Dieu et le répondeur de Père Noël, c'est qu'on peut laisser un message sur le répondeur de Père Noël. Il faut être incroyablement optimiste, c'est-à-dire donner corps quand même énormément à la conviction qui est la sienne.
Ben oui, d'ailleurs, c'est ce qui a donné l'expression « tu crois encore au Père Noël », hein, d'où la question.
C'est une drôle de phrase, non? Si le Père Noël existe, dire qu'on croit au Père Noël, après tout.
Ouais, tu crois encore au Père Noël. Ça mène vraiment très loin. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire, tu crois encore au Père Noël? Est-ce que ça voudrait dire...
C'est quelque chose qu'on dit aux adultes, ça, en général.
Voilà. Hein. Alors, moi, j'avais posé la question comment ai-je pu croire au Père Noël avec l'idée que les adultes eux-mêmes avaient peut-être l'illusion qu'ils n'y croyaient plus. C'est-à-dire qu'on ne les reprendrait plus, que maintenant, j'étais assez sage, assez raisonnable pour ne plus me faire avoir, comme s'il y avait un âge à partir duquel on pouvait plus croire n'importe quoi.
Autrement dit, ce que vous dites, c'est que le Père Noël n'est pas seulement une sorte de vieux bonhomme immortel avec une longue barbe blanche. Il est ça aussi, naturellement. Hein, ouais. Barbe blanche, pyjama rouge, pyjama coca, etc. ou la hotte au contenu débordant. Non. Le Père Noël, c'est aussi la métaphore du désir que le monde soit là pour nous faire plaisir.
Ouais, voilà, c'est ce que Freud, pour parler d'un psychologue, appelait l'illusion, c'est-à-dire qui est la projection de nos désirs. Hein. Tu prends tes désirs pour des réalités. La question étant de savoir il faut être pessimiste en disant que la réalité s'adaptera jamais à nos désirs ou à nos projets. Ou après tout, c'est pas mal de croire au Père Noël si ça veut dire avoir certains projets en espérant ou pas qu'ils se réalisent, mais en faisant ce qu'il faut pour que ça arrive. Quoi.
Donc si on quitte un tout petit peu le terrain de l'enfance, je parle ici de l'enfance au sens du nombre d'années, donc définition tout à fait restrictive de l'enfance, puisque vous savez mieux que moi naturellement que nous ne quittons pas l'enfance. Tu peux quitter l'enfance, disait Julien Clerc, ton enfance ne te quitte pas. On quitte donc provisoirement ce terrain-là. Qu'est-ce que le rêve d'un autre monde possible, l'utopie d'une suppression définitive des inégalités, le fantasme d'une justice immanente où les méchants sont punis et les gentils récompensés, sinon autant de formes prises, non pas par le Père Noël lui-même, mais par la croyance au Père Noël.
Je parlais de Freud il y a deux minutes, on retrouve exactement les fonctions de la religion que Freud définit, c'est-à-dire grâce à un dieu et un paradis en particulier, l'idée qu'on pourrait croire en une justice, si elle n'est pas réalisée ici, qu'elle serait réalisée ailleurs. tu l'emporteras pas au paradis le jour du jugement dernier, et puis l'idée que la vie aurait un sens, qu'on va pas mourir, enfin voilà, moi il me semble, enfin c'est un peu l'idée, hein, il me semble que le Père Noël c'est un dieu pour enfants et Dieu un Père Noël pour adultes, et que finalement une certaine continuité. Après, les parents qui se posent la question de savoir, des parents qui seraient catholiques par exemple, ou chrétiens, ou tout ce qu'on veut comme religion,
verraient là une forme de divinité concurrente, une sorte d'ersatz d'Halloween,
plutôt préparatoire.
Ouais. Ah, préparatoire, une divinité préparatoire.
Je me demande, est-ce qu'il y a des parents chrétiens qui emmènent leurs enfants à la messe et qui s'interrogent sur le mensonge du Père Noël, par exemple? Ce serait assez amusant.
Le mensonge du Père Noël, voilà, comme vous y allez.
Voilà, qui
le mensonge du Père Noël serait de faire croire qu'il n'existe pas.
Voilà, sûrement.
On est d'accord là-dessus. Tiens, écoutez ça.
Des poils du Sasquatch et son ADN dans le Michigan. Hé, mais c'est tout près d'ici en plus.
Ça recommence.
Tu as vu la vidéo, Claude? Il existe en vrai.
Qu'est-ce que tu disais pour les extraterrestres?
Et le lapin Pâques aussi.
Il est vrai de vrai, le lapin Pâques.
Ça oui, vrai de vrai. Un vrai grognon, un vrai casse-pied, plutôt un but de lui-même.
Vous croyez n'importe quoi, les gars. Il fait de la luge ou quoi?
Ton chapeau, Jenny, sinon Jack Frost va te geler les oreilles.
C'est qui, Jack Frost?
Personne, trésor, c'est juste une expression.
Ouais. Europe 1, Raphaël Antoven.
Ça, c'est un extrait de ce film absolument remarquable, ce dessin animé génial, Les 5 légendes de Peter Ramsay, qui présente notamment le personnage de Jack Frost, qui, à la différence du lapin de Pâques ou du Père Noël, est moins connu des enfants. Et comme il est moins connu des enfants, les parents ont moins de scrupules à le présenter comme un conte de bonne femme, au fond, un conte de vieille dame, comme disait Socrate en parlant des mythes qu'on trouvait dans les dialogues platoniciens. Et le problème, c'est que Jack Frost lui-même, qui existe comme le Père Noël, entend ça, et s'entend dire par une mère que lui-même n'existe pas, qu'il n'est lui-même qu'une métaphore, condition terrible pour l'individu qui entend ça et qui croit, lui, qu'il existe vraiment. Il y a une corrélation très importante, et c'est là-dessus qu'on travaille en prof de philo, entre l'existence de quelque chose et la croyance qui supporte cette existence, qui lui donne le jour.
Ben oui, la croyance et puis plus fondamentalement la conscience. Hein. Enfin voilà, je veux dire l'existence de tout ce qui nous entoure ici est quand même liée au fait que nous, êtres humains qui pensons, sommes conscients d'abord de nous-mêmes et du coup de ce qu'il y a devant nous. Donc finalement, tout ce qui existe existe à travers un être qui croit. C'est aussi tous les mythes de alors l'ego de la caverne et puis les films du genre Matrix, etc. L'idée que les choses existent parce que quelqu'un en a conscience.
Bien sûr, mais dans l'allégorie de la caverne, on a des gens qui prennent, au fond, des vessies pour des lanternes, des reflets sur la paroi pour la réalité des individus et la lumière d'un foyer, d'un feu de cheminée, au fond, hein, ouais, pour la lumière véritable du soleil, ou la lumière de la vérité. Mais le régime d'existence qu'on attribue à cette table, la table autour de laquelle on se trouve, le verre de la tasse de café, l'ordinateur, etc., etc., le régime d'existence qu'on accorde à tout ça n'est pas exactement le même que le régime d'existence qu'on accorde à Dieu ou au Père Noël. Il y a quand même une différence entre le fait d'affirmer que la table existe et le fait de croire que le Père Noël existe.
Oui, parce que comme on l'a plus ou moins jamais vu, hein, comme Dieu...
Et on ne voit que lui.
Alors, on le voit à l'entrée des magasins.
Ouais.
Effectivement, dans quelle mesure est-ce qu'il n'existe pas seulement dans nos croyances Après, la question, c'est de savoir comment est-ce que, du coup, il détermine... En fait, c'est pas qu'une idée. Enfin, c'est une croyance à un intérêt si elle détermine un certain comportement. Enfin, c'est-à-dire de vivre quand on
C'est en cela qu'on peut parler d'existence.
Voilà,
je parlais tout à l'heure des bienfaits ou des crimes commis au nom de Dieu.
Voilà, à travers nos rituels, à travers nos comportements, nos conduites. Effectivement, il y a quelque chose de magique, hein, le soir de Noël, quand les enfants entendent ou pas le Père Noël passer, il se passe des choses dans la famille. Et je pense que c'est pas qu'une croyance. Si c'était qu'une croyance, c'est-à-dire une vue de l'esprit, une idée comme ça un peu vague, elle n'existerait pas vraiment, mais ça existe à travers la manière dont nos comportements s'adaptent ou correspondent à cette croyance. Quoi.
Sans compter les théories du complot de ses parents attachés à démontrer à leurs enfants absurdement que le Père Noël n'est qu'une arnaque et qu'il n'existe pas.
Je ne sais pas qui sont ses parents.
Folie. Je ne sais pas qui sont ses parents, mais enfin, il y a des complotistes partout.
Voilà,
hein.
voilà.
Dans mes chaussures, une voiture. Dans mes chaussons, un ourson. Dans mes baskets, une dinette. Dans mes sandales, un cheval. Dans mes ballerines, des pralines. Et dans mes bottes,
des papillotes. Une petite comptine de Corinne Albo pour clore le second temps d'une discussion sur le Père Noël en compagnie du prof de philo Gilles Verviche qui signe « Comment ai-je pu croire au Père Noël ?» philosophé au quotidien. C'est chez Max Milo. On y revient tout de suite dans l'immédiat, évidemment, puisqu'on parle d'enfance. Comment entendre autre chose que Barbara sur Europe 1, mon enfance. Écoutez ça.
Europe 1, qui vive. Tous les samedis, 15h-16h.
J'ai eu tort, je suis revenue dans cette ville loin perdue où j'avais passé mon enfance. J'ai eu tort, j'ai voulu revoir le coteau glisser le soir, bleu et gris, ombre de silence. Et j'ai retrouvé comme avant, longtemps après, le coteau là-haut se dressant. Comment passer ? J'ai marché les tempes brûlantes, croyantes étouffées sous mes pas. Les voix du passé qui nous hantent et reviennent sonner le glas. Et je me suis couchée sous l'arbre, c'était les mêmes odeurs. Et j'ai laissé couler mes pleurs, mes pleurs. J'ai mis mon dos nu à l'écorce, l'arbre m'a redonné des forces, tout comme au temps de mon enfance. Et longtemps j'ai fermé les yeux, je crois que j'ai prié un peu, je retrouvais mon innocence. Avant que le soir ne se pose, j'ai voulu voir les maisons fleuries sous les roses. J'ai voulu voir le jardin où nos cris d'enfants jaillissaient comme source claire. Jean-Claude et Régine et puis Jean, tout redevenait comme hier. Le parfum lourd des songes rouges, les dahlias fauves dans l'allée, le puits, tout, j'ai tout retrouvé. La guerre nous avait jetés là, d'autres furent moins heureux, je crois, autant jolis de leur enfance. La guerre nous avait jetés là, nous vivions comme hors la loi, et j'aimais cela quand j'y pense. Ou mes printemps, ou mes soleils, ou mes folles années perdues, ou mes 15 ans, ou mes merveilles, que j'aime mal d'être revenu. Oh, les noix fraîches de septembre et l'odeur des murs écrasés, ces photos, j'ai tout retrouvé. Hélas, jamais revenir, autant cacher les souvenirs du temps béni de son enfance. Car parmi tous les souvenirs, ceux de l'enfance sont les pires, ceux de l'enfance nous déchirent. Vous ma très chérie, oh ma mère, où êtes-vous donc aujourd'hui? Vous dormez au chaud de la terre, et moi je suis venue ici pour y retrouver votre rire, vos colères et votre jeunesse. Je suis seule avec ma détresse. Seul au détour de ces rues, j'ai froid, j'ai peur, le soir se penche. Pourquoi suis-je venu ici où mon passé me crucifie? Elle dort à jamais, mon enfant.
Car parmi tous les souvenirs, ceux de l'enfance sont les pires, ceux de l'enfance nous déchirent. Vous entendez ça, les enfants? Souvenez-vous de votre enfance, si ça vous chante, mais ne regrettez rien, car qui regrette quoi que ce soit est malheureux deux fois. Allez, à tout de suite sur Europe 1 pour parler du Père Noël.
Raphaël Antoven, qui vive sur Europe 1. Europe 1,
qui vive. 15h, 16h.
Raphaël Antoven.
Du Père Noël, encore et toujours dans Qui vive, en compagnie du philosophe Gilles Verviche qui signe chez Max Milo un livre sur le sujet et sur mille autres aussi d'ailleurs. Comment ai-je pu croire au Père Noël, sous-titre Philosopher au quotidien.
Alors je sais pas comment ça se passe dans les autres familles, mais moi mes parents, ils sont plutôt nuls en Noël. On ouvrait les cadeaux le soir et mes parents avaient une technique carrément chelou pour mettre les cadeaux au pied du sapin sans qu'on le voie. Ils me demandaient, Cyprien, va ranger ta chambre. Oui ? Le soir de Noël, grosse ambiance. Bah du coup je rangeais ma chambre et quand je revenais, oh t'as loupé le Père Noël, il a déposé les cadeaux. Bon, le problème avec cette technique, en plus d'être totalement nul à chier, c'est que ça marche qu'une fois. Cyprien, va ranger
J'ai déjà rangé ma chambre.
Est-ce que t'as passé...
J'ai passé l'aspirateur, j'ai replié mes vêtements, j'ai resserré le lit, j'ai refait la peinture, l'électricité, le chauffage au sol, l'isolation, j'ai coulé une dalle et j'ai pété un mur pour agrandir.
Ah bah mince, pendant que tu parlais, le Père Noël, il a déposé les cadeaux.
Merde !
Et voilà. On se fait toujours avoir, c'est comme ça. Ouais. Excellent Cyprien, hein, sur le Père Noël. Histoire vraie, hein, les parents de Cyprien lui commandaient d'aller ranger sa chambre le soir de Noël, sans quoi le Père Noël ne passerait pas. Mais le vieux monsieur à la barbe blanche, manque de bol, passait justement au moment où l'enfant rangeait ses jouets.
Ainsi va le Père Noël, il a beau exister, on ne le saisit pas davantage qu'un vampire au petit matin.
Il est fort ce Père Noël. Hein.
Il est fort le Père Noël. On en revient d'ailleurs aux prouesses techniques hein, qui lui valent de faire.
Moi c'était la même chose, mais je trouve ça plus cohérent qu'il le dit. Va ranger ta chambre, pourquoi? Bah pour la préparer pour les nouveaux cadeaux qui vont arriver, parce que ça nous rapproche un peu du désir. Le problème c'est que quand on sait qu'il y a des nouveaux cadeaux qui arrivent, finalement ceux de l'année dernière deviennent un petit peu dépassés et on est content d'en avoir des nouveaux quoi.
Donc quand on dit d'aller, quand on demande à un enfant d'aller ranger sa chambre, c'est-à-dire d'aller mettre de l'ordre, c'est au fond une façon pour lui de remiser vers le passé ce qui relève du passé et de faire place nette. Voilà. Ou maison nette voilà. Pour l'avenir qu'incarne ce bonhomme rémanent qui revient chaque année.
Voilà, alors ça nous met, je trouve que ça nous, pour le coup, ça nous remet un peu face au caractère un peu insatiable de nos désirs. Hein. Le rituel que le Père Noël va venir tous les ans nous apporter des nouveaux cadeaux. Moi j'ai le souvenir comme ça que je regardais des cadeaux qui avaient, des jouets qui avaient à peine un an et qui paraissaient déjà trop vieux. Et ça justifie un peu cette quête insatiable du désir. Et on est content de ranger sa chambre pour avoir les nouveaux jouets quoi.
Mais dites, on explique aux enfants qu'il est mal de mentir, qu'il faut pas mentir. Et en même temps, à force d'envoyer, c'est quand même étrange de la part des parents, à force d'envoyer les enfants dans leur chambre, c'est ce qui arrive à Cyprien, hein, qui nous fait part là de son incrédulité. Peut-être a-t-il même lui-même un doute sur l'existence du Père Noël, c'est quand même étrange. À force d'envoyer les enfants dans la chambre, ranger la chambre, donc au moment où le Père Noël arrive, est-ce qu'on n'instaure pas justement un régime de doute dans l'esprit des enfants? Est-ce que on n'est pas à l'origine justement de ce grand scepticisme, de cette grande déception métaphysique qui culmine chez ceux qui soudain se mettent à ne plus croire au Père Noël.
Mais moi, je trouve ça très bien de, à la limite, cultiver le doute. C'est vrai qu'on pourrait opposer la croyance à la connaissance en prétendant que il vaut mieux, hein, quand on dit je ne crois que ce que je vois, qu'il vaut mieux savoir que croire. Mais finalement, je pense que cette période de doute, hein, le fait de ne justement pas voir le Père Noël pour maintenir une sorte de scepticisme, ça permet à l'enfant de grandir en fait, à la fois avec cette idée que peut-être les parents lui mentiraient. C'est le doute, c'est quand même l'attitude philosophique par excellence qui permet de remettre un peu ses idées, ses certitudes, ses croyances en question. Donc moi j'ai le sentiment que cette idée de mensonge que certains voudraient nous faire croire permet en fait de grandir. C'est aussi un moyen de grandir. Voilà. C'est une sorte de rituel de passage de se remettre un moment en question par
Alors,
rapport à...
Mettons qu'il y ait dans l'existence trois temps. Le temps de l'enfance. Où l'on croit, non pas naïvement, mais ingénument d'une certaine manière, ce qu'on nous raconte, et par conséquent l'on croit par définition au Père Noël. Arrive peut-être après l'adolescence, où l'on croit bon de contester ce qu'on nous raconte, l'époque cartésienne de l'existence, où on croit bon de révoquer en doute tout ce qui n'est pas absolument certain et qu'on a jusqu'ici reçu en notre créance, mais de l'extérieur, n'est-ce pas, sans le discuter, donc ça c'est l'adolescence, on récuse tout ça parce que si ça se trouve c'est des foutaises, donc du coup on soumet ça à l'hypothèse de la foutaise. Et puis il y a le retour au calme, le retour à l'âge adulte, c'est-à-dire aussi le retour à la crédulité, le retour à la croyance et à toutes ces modalités de croyance au Père Noël que sont la croyance dans un autre monde possible ou bien la croyance en Dieu, tout simplement, Gilles Verviche.
Ben oui, je pense que finalement, parce qu'on peut pas rester non plus dans le doute toute sa vie.
Dans l'adolescence, quoi.
Dans l'adolescence. D'ailleurs, je me demande si l'adolescence c'est pas aussi un âge où on se fait des illusions sur son propre scepticisme. Hein. Moi, j'ai affaire en particulier à des élèves qui pensent m'opposer leur pensée libre juste parce qu'ils sont pas d'accord quand
vous avez des demi-habiles dans votre classe.
Exactement,
hein,
voilà, ils ont l'esprit de contradiction en disant je ne suis pas d'accord soit avec vous soit avec le philosophe qu'on est en train de lire sans se demander si l'opinion qu'ils sont en train de soutenir elle est vraiment d'eux ou pas. Voilà, il y a l'idée en philosophie que le propre de l'ignorance c'est de s'ignorer elle-même et finalement peut-être que les adolescents ont plus de convictions qu'ils le croient.
Oui, voilà. C'est-à-dire qu'en philosophie, ça c'est chez Platon, hein, il y a ceux qui savent et qui savent qu'ils savent, et que donc sachant qu'ils savent, n'ont pas besoin d'apprendre. Voilà. Puis il y a ceux qui ignorent tellement qu'ils ignorent même qu'ils ignorent, et qui donc n'ont pas besoin d'apprendre non plus. Puis au milieu, il y a celui qui sait qu'il ne sait rien. C'est peut-être celui-là qui a des mots à dire au Père Noël. Écoutez ça, tiens, Anne-Sophie de la Coquillette.
Vous êtes là, mère de famille, et je crois que vous partagez plutôt l'avis de notre invitée, madame Christine.
Alors, Brunet. Je veux vous dire, je partage l'avis de mon mari, et non pas l'avis de votre invitée, comprenez? Oh non, non, je commence toujours par une petite boutade, j'adore venir vous voir.
Alors,
non, Je pense également qu'il est excellent que l'enfant croit au Père Noël, et le plus longtemps possible. Ah, s'il vous plaît. Ah oui, oui, très important.
Vos enfants croient eux-mêmes encore au Père Noël?
Et comment, l'ami?
Oui.
Mon aîné.
Votre aîné de
quel? Non, arrête avec ça. Qu'il est bête, il est you-you. Oh, oh non, écoutez, il est you-you. Je sais pas ce que ça veut dire. Bon, bref. Mon aîné Charles Apollon, connaissez Charles Apollon, qui va sur ses 30 ans, eh bien, il y croit dur comme ferme, l'animal. Ah oui, il y croit encore, bien sûr, c'est très important.
Europe 1, qui vive. Raphaël Antoven.
Charles Apollon, il va sur ses 30 ans, il y croit dur comme fer au Père Noël. Il n'est pas le seul d'ailleurs. Combien de trentenaires continuent de croire au Père Noël, si le Père Noël est une métaphore? Est-ce qu'on ne peut pas voir que dans cette caricature de Florence Foresti, c'était chez Laurent Ruquier il y a quelques années, quand elle incarnait Anne-Sophie de la Coquillette, hilarante, Florence Foresti, est-ce qu'on ne peut pas voir dans cette caricature une certaine vérité au fond? La croyance entretenue dans le Père Noël n'est-elle pas l'expression d'un tanguisme, c'est-à-dire d'un trop grand désir de protection? Est-ce que c'est pas une façon finalement pour les parents, un peu comme Cat Stevens, d'immuniser leurs enfants contre la dureté du monde?
Il y a cette idée, alors j'ai lu ça chez des psychologues, il y aurait l'idée que entretenir le mythe du Père Noël, ce serait un moyen pour les parents de retenir leurs enfants chez eux, en tout cas dans leur affection, hein, finalement de pas les éduquer au sens propre du terme, qui signifie conduire en dehors, pas les rendre autonomes finalement.
Ex-duquere, il faut le dire aux auditeurs. Voilà. Hein. L'éducation, c'est littéralement être conduit en dehors de soi.
Voilà, hein, donc être rendu autonome. Donc ce serait peut-être les parents qui auraient un problème. Plutôt que leurs enfants. Maintenant, moi, je continue à penser que c'est vraiment quelque chose de bien. Alors, peut-être pas jusqu'à 30 ans, hein, évidemment. De toute façon, l'expérience fait que les enfants, en allant... Descartes commence en disant « Il y a déjà quelques temps que je me suis aperçu que dès mes premières années, j'ai reçu quantité de fausses opinions pour véritables. » Il y a plein d'occasions...
C'est le début des méditations.
Des méditations, il y a plein d'occasions de s'en rendre compte et que, effectivement, si un enfant va au dehors, s'il va à l'école, s'il est dans la cour, etc., il va forcément se retrouver face à ses raisons de douter. Je pense que les parents auront du mal à tenir bon indéfiniment.
Un petit mot sur Descartes, c'est le philosophe d'un recommencement perpétuel. Hein. Les quatre grands textes de Descartes sont des textes qui à chaque fois se donnent comme inauguraux.
Voilà. Hein.
On fait du passé table rase, ce qu'on a entendu jusqu'ici c'est peut-être faux, c'est peut-être bidon, en tout cas l'honnêteté intellectuelle commande qu'on le révoque ou qu'on le suspende en attendant de le vérifier. Ça c'est le propos de Descartes, et derrière ce propos il y a une ambition magnifique qui consiste à conquérir son autonomie. Voilà. Ne plus recevoir comme des vérités révélées les vérités qu'on nous assène de l'extérieur, mais les construire soi-même. Alors, comment dans une conscience, la construction d'une vérité, c'est-à-dire l'autonomie, peut-elle laisser une chance au Père Noël ?
Eh bien justement, je pense que faut pas voir comme un drame ou comme une tragédie cet âge où on découvre que éventuellement les parents nous auraient raconté des histoires d'un Père Noël que personne n'a jamais vu, hein, sinon devant les magasins pour faire la promotion d'objets matériels. Je pense que c'est pas une tragédie. Au contraire, ça correspond à cet âge où on conquiert. Si on est toujours entretenu dans ses croyances et ses certitudes sans que rien ne revienne les remettre en question, hein, c'est ce début des méditations que je citais tout à l'heure, alors il n'y a pas d'occasion de remettre ses certitudes en doute. Et je pense que la fin de l'âge du Père Noël, c'est le moment qui marque cette maturité. Enfin, voilà. Moi, ça me paraît plutôt constructeur que destructeur, quoi, le mythe du Père Noël, vraiment.
Le mythe du Père Noël, le problème aussi, c'est sa démystification. Nietzsche a cette très belle phrase, il dit « Les illusions sont coûteuses, mais leur destruction est plus coûteuse encore ». On va y revenir hein, dans un instant. Tout de suite, la plus belle, la plus douce des chansons. Oh, non pas celle que vous chantez votre maman pendant que vous vous suciez le pouce, non. La reprise d'Over the Rainbow par Israël Kamakawiwole.
Europe 1, qui vive. Tous les samedis, 15h-16h.
Ooh, somewhere
that's where you find me. Oh, somewhere over the rainbow, way up high. And the dreams that you dare to, why, oh, why can't
the dreams that you dreamed of, dreams really do come true. Et si le Père Noël était une réalité qui se prend pour un rêve? On en parle aujourd'hui dans Qui vive en compagnie du philosophe Gilles Verviche sur Europe 1. A tout de suite.
La hotte de Noël Europe 1. Avec Vacances Bleues, vous pouvez gagner un séjour d'une semaine pour 4 personnes en pension complète pour découvrir les Alpes du Sud au pied des plus beaux sommets du Parc National des Écrins. Vous profiterez d'un espace forme Aquazur avec la grande piscine couverte, le sauna, le hammam. Vous pourrez également découvrir la vallée de Serre-Chevalier et ses 250 km de pistes sur son domaine skiable, l'un des plus grands d'Europe. Plus d'informations sur vacancesbleues.fr. Et pour la touche gourmande, nous vous offrons un assortiment de savoureux chocolats Jeff de Bruges. Pour jouer, inscrivez-vous au tirage au sort en appelant le 39 21, 50 centimes la minute, ou envoyez le mot de passe chance par SMS au 73 921, 73 921, 65 centimes plus coût du SMS. 3 messages pour jouer, alors bonne chance à tous.
Europe 1, qui vive
tous les samedis 15h-16h,
Raphaël Antoven.
Du Père Noël, de ses ombres, de ses avatars et de la lumière qu'il répand dans les yeux des petits enfants. On en parle aujourd'hui dans Qui vive en compagnie du philosophe Gilles Verviche, auteur de Comment ai-je pu croire au Père Noël, sous-titre Philosopher au quotidien. C'est paru chez Max Milo.
Georges, je suis si heureuse que tu aies changé d'avis à propos de Wendy. Après tout, ce n'est encore qu'une enfant.
Oh, voyons, Marie, tu sais bien que je ne parlais pas sérieusement. N'est-ce pas, Nana?
Wendy, mais qu'est-ce que tu fais à la fenêtre? Oh, maman, nous sommes revenus.
Revenus?
Tous, sauf les garçons perdus, ils n'étaient pas tout à fait prêts.
Les garçons perdus? Prêts à quoi?
À grandir. C'est pourquoi ils sont repartis au pays imaginaire.
Le pays imaginaire?
Oui, mais moi, je le suis.
Tu le suis?
Je suis prête à grandir.
Rêve ta vie en couleur.
Il y a deux leçons dans Peter Pan, Gilles Verviche. Deux leçons à retenir, au moins. Mais alors, ces deux-là se tiennent. La première, c'est naturellement le besoin de merveilleux. La nécessité de merveilleux et aussi l'envie de trouver parfois refuge, la tentation de trouver refuge dans un monde imaginaire. Que ce monde imaginaire, d'ailleurs, soit dangereux ou bienveillant, ce qui est le cas dans Peter Pan, dans ce conte merveilleux. Mais la deuxième leçon, c'est aussi la nécessité du passage à la vie adulte, c'est-à-dire d'un retour au réel, un peu à l'image, vous parliez tout à l'heure du mythe de la caverne. L'un des problèmes du mythe de la caverne, c'est qu'il y en a un parmi les gens qui vivent dans l'illusion et qui prennent les reflets sur la paroi pour la réalité. Il y en a un qui sort de la caverne, c'est le philosophe, et qui comprend que, eh bien, la véritable lumière, c'est la lumière du soleil et non pas la lumière du foyer qui s'interpose entre les hommes et la paroi. Bon, mais bizarrement, le philosophe, après avoir vu la lumière du soleil, éprouve le besoin de redescendre dans la caverne pour expliquer aux hommes ce qu'il en est. Est-ce que, avec Wendy, qui décide finalement d'épouser l'âge adulte, l'adolescence, et donc de sortir du désir du monde imaginaire, il n'y a pas l'équivalent, au fond, de cette redescente dans la caverne, c'est-à-dire dans la réalité blafarde de l'existence quotidienne?
Oui, vous l'avez dit, retour dans la réalité blafarde quotidienne. D'abord, je crois, enfin, il me semble que dans l'allégorie de la caverne, il y a un peu l'idée qu'on peut avoir envie de retourner dans la caverne juste pour retourner dans la caverne, c'est-à-dire ayant affronté une réalité dure.
Une vérité, au fond.
Une vérité, la vérité, mensonge, hein, ce qu'on retrouve dans Matrix, c'est encore une autre version, je ne t'offre que la vérité. Et puis, dans
rien
ce film, il y a un traître qui veut retourner, tout oublier, et finalement, il préfère l'illusion du bonheur à une vérité. Qui fait souffrir.
Un point là-dessus, c'est très important, hein, dans Matrix, c'est le personnage de Cypher.
Voilà,
c'est le traître
dans Matrix,
et c'est celui qui, en toute connaissance de cause, demande au gardien de la matrice de le replonger dans la matrice en lui mettant des souvenirs avantageux.
Voilà.
Donc c'est l'illusion volontaire.
Bah voilà, et c'est une très, ça me paraît une très bonne question. En plus, grandir, devoir grandir, pourquoi, comment, qu'est-ce que ça veut dire devenir un peu adulte? Enfin voilà. Évidemment, s'il s'agit de rester dans l'imaginaire au sens nier la réalité pourrait être un peu inadapté, d'accord, mais après tout, pourquoi aussi se dire, c'est un côté un peu triste, hein, mais maintenant je retourne à l'âge adulte, c'est-à-dire il faut quitter l'imaginaire, pourquoi pas, est-ce que, après tout, notre imagination construit aussi la réalité elle-même, si c'est, ah bah maintenant il va falloir trouver un boulot sérieux et un peu triste,
une place pour la voiture et tout ça,
voilà, un crédit, qu'est-ce que ça,
un crédit, un créneau, un boulot,
voilà.
Toutes les galères de l'existence.
Voilà,
ouais.
Pourquoi la réalité, ce serait... on dit toujours, oui, tu étais un adolescent... ça m'arrive de me l'entendre dire, moi, hein, notamment avec mon petit goût pour Star Wars, par exemple. Pourquoi, à partir du moment où on travaille, on réfléchit, on est un peu autonome, on pourrait pas aussi entretenir quelque part pourquoi il faudrait se débarrasser de tout ce qui est imaginaire? Alors, c'est ce qu'on appelle le syndrome de Peter Pan, mais est-ce qu'il faut passer d'un monde imaginaire à une réalité totalement désenchanté, parce qu'on sera adulte.
Mais on en revient à la citation que je vous donnais de Nietzsche tout à l'heure. Les illusions sont coûteuses, mais leur destruction est plus coûteuse encore. Est-ce qu'on n'est pas dans l'imaginaire au carré quand on croit qu'on est revenu à la réalité, qu'on est revenu au monde réel? Parce que ce qu'on appelle le monde réel, c'est un monde d'amnésie quotidienne. Le monde qui est promis à la petite Wendy, c'est un monde d'amnésie quotidienne où elle va vivre sans y penser des journées banales qui vont retomber dans la longue série des jours oubliés avant qu'elle-même meurt, tout en se demandant pourquoi elle est passée par là. Je veux dire, c'est quand même ça qui l'attend, donc on n'est pas là non plus. Alors, c'est la réalité, mais c'est la réalité d'un monde où vraiment l'imaginaire ou l'illusion est omniprésente.
Ben oui, c'était exactement mon propos dans ce petit chapitre que j'avais fait. Comment ai-je pu croire au Père Noël? C'est vraiment la fausse question. C'est une question effectivement...
En fait, la vraie question, c'est comment pouvez-vous ne plus y croire?
Comment pouvez-vous croire que vous n'y croyez plus? Puisque, après tout, cette réalité, effectivement, on est aussi soumis à un certain nombre de dogmes et d'opinions sans s'en rendre compte, à commencer par celui de la société de consommation qui récupère tous ces mythes qui devraient nous emmener dans le merveilleux, j'ai envie de dire gratuit, et puis toute la vie, voilà, bon, c'était pas une théorie des complots, hein, c'est vraiment l'idée que voilà, chacun se... Dans l'allégorie de la caverne, il y a les fameux marionnettistes, hein, qui manipulent...
Ils agitent des ombres chinoises.
Ils agitent des ombres, et ce seraient ceux qui manipulent. Alors à l'époque de Platon, c'était éventuellement les sophistes et les politiques.
Et les auteurs de trompe-l'œil.
Voilà, les artistes, on peut penser aussi à la religion. Aujourd'hui, ça peut être aussi beaucoup la publicité, qui est un dogme qui parle un peu plus aux gens et qui les détermine un peu plus dans leur comportement que la religion. Enfin,
de ce point de vue, elle est beaucoup plus mensongère que que toute forme de croyance qu'on imposerait aux enfants ou qu'on présenterait aux enfants, puisque elle ne se présente pas comme mensongère. Elle ne se présente pas non plus. Elle se présente parfois comme merveilleuse, mais elle ne se présente jamais comme fausse.
Ah oui, l'idée du bonheur. Enfin, je veux dire, je vais pas vous faire la liste de toutes les publicités qui parlent de bonheur et de joie et de... On en a pour longtemps, mais on nous vend toujours cette même chose, quoi. Hein, et finalement, cette illusion du bonheur, du traître qui veut retourner dans la matrice, c'est... On vit dedans, en fait.
Suis-moi, Jack, dépêche-toi!
Ah, je croyais que c'était les elfes qui faisaient les jouets.
On les laisse croire pour leur faire plaisir.
Oui, splendide. C'est très beau travail. Ça me plaît pas. Peindre-le en rouge. Voilà ce qui m'anime au fond. C'est avec ça que je suis venu au monde. Des yeux capables de percevoir la merveille dans tout ce qui m'entoure. Des yeux qui voient des décorations dans les sapins et de la magie dans l'air. Le émerveillement, c'est ce que j'apporte au monde entier. Et ce que je préserve chez les enfants.
C'est ce qui fait de moi un gardien.
Europe 1, Raphaël Antoven.
Ce qui fait de lui un gardien, on est toujours dans les 5 légendes, le film de Peter Ramsey qui est vraiment génial. Ce qui fait de lui un gardien, sa vraie nature, c'est qu'il a de grands yeux émerveillés, qu'il regarde toujours avec un accent moldave le monde en y voyant ce qu'il y a de plus beau et de plus neuf. Et c'est en cela qu'il maintient chez les enfants cette faculté d'enchanter le monde. Voici comment le Père Noël explique lui-même sa propre mission auprès des enfants. Sans faire valoir néanmoins que, encore une fois, sa propre existence dépend justement du regard qu'il enchante. Au fond, c'est une question de survie pour le Père Noël. Plus il y a d'enfants susceptibles d'être émerveillés ou attentifs au merveilleux que contient le monde, plus l'existence du Père Noël est avérée. Le Père Noël, en revanche, dans ce film, s'affaiblit, perd de sa force et de son pouvoir quand, à cause du croque-mitaine, les enfants finissent par douter de lui.
Oui, alors deux choses. D'abord, c'est peut-être de sa faute parce qu'il arrive toujours au mauvais moment. Hein. Vous savez, il n'y a que les parents qui le voient. Comme par hasard, c'est au moment où on range sa chambre que, oh, 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 on entend la porte claquer. Il restait toujours 2 minutes. Hein. Et donc, il n'y a personne. Ah, pas de chance. Justement, c'est justement tous les ans.
Zut
pourtant,
alors.
D'une année sur l'autre, les parents devraient être prévenus hein, que cette année, on va s'organiser pour essayer de le voir. Et puis non, on le rate tout le temps comme Jésus-Christ ressuscité. Mais sinon, ça me rappelle aussi effectivement ce film que j'ai vu, moi, enfant, qui était l'histoire sans fin, qui était justement l'idée que le néant avance et qui détruit peu à peu ce qui est un monde imaginaire en fait, hein, et l'idée est de sauver ce monde parce que c'est l'idée que les enfants ne croient plus au merveilleux, ne croient plus à l'imaginaire et que donc ce monde de contes de fées, de légendes est en train de disparaître. Et effectivement, le Père Noël lui apporte peut-être du merveilleux, mais c'est aussi les enfants qui, en croyant un peu, en entretenant l'imaginaire et le merveilleux, continue à y croire. Et moi, je pense qu'il n'y a rien de mieux pour un enfant pour créer des souvenirs. Dans le film Interstellar, à un moment, le héros dit dès qu'on devient parent, on sait qu'on va devenir des souvenirs pour nos enfants. Et je pense que le meilleur moyen de faire un enfant qui soit autonome, équilibré plus tard, c'est quand même d'entretenir ce monde merveilleux tant qu'il est dans l'enfance, quoi.
Ce qui est fou, c'est que dans le film Interstellar, celui qui dit ça finit par mourir alors qu'il est beaucoup plus vieux jeune que sa propre fille, pour des raisons temporelles, spatio-temporelles, dans le détail desquelles nous n'entrons pas maintenant. Un point quand même, puisque vous l'avez évoqué et qu'on arrive au terme de cette discussion sur l'histoire sans fin. Oui. D'abord pour dire au Père Noël que ça ferait un excellent cadeau de Noël sous le sapin, ceux qui ont oublié dans leur lettre au Père Noël de leur demander l'histoire sans fin doivent le faire de toute urgence. On peut lui envoyer un mail aussi.
C'est un film qui a tout compris de ce que c'était un enfant.
C'est un film dans lequel un enfant découvre lui-même qu'il est le personnage du livre qu'il est en train de lire.
Exactement.
Autrement dit, l'enjeu n'est pas de comprendre le livre, mais de comprendre qu'on est compris par lui. Quelques mots là-dessus, Gilles Verviche. C'est tellement beau, l'histoire sans fin.
Ben oui, c'est ça. C'est que le monde imaginaire n'existe qu'à travers le regard de l'enfant. Et forcément, quand on est devant ce film, on s'identifie immédiatement. Et ça justifie. C'est un film Bastien. Et c'est un film qui justifie l'imaginaire qu'un enfant se construit face à des adultes qui lui répéteraient qu'éventuellement, il faut revenir à la réalité. Là, on a un personnage qui dit oui, tu lis des livres tout seul dans ta chambre, oui, mais c'est encore important parce que si tu le fais pas, et ben ce monde imaginaire va disparaître. Et qu'est-ce qui va nous rester? La réalité triste.
Cette histoire-là n'a pas de fin, contrairement à l'émission qu'on lui consacre. Grand merci Gilles Verviche d'être
merci
venu nous voir sur
merci.
Europe 1. C'est un plaisir de parler avec vous. Joyeux Noël, chers auditeurs, de tout cœur. Faites-vous immédiatement, séance tenante, si ce n'est pas déjà fait, offrir l'histoire sans fin. C'est presque mieux que Harry Potter, vous verrez. Merci à mes camarades Julien Tricard et Thomas Caillé qui portent tant de surprises dans leur hôte que grâce à eux, c'est Noël toute l'année dans les studios d'Europe 1. Qui vive, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez, si vous le souhaitez, cette émission sur Internet, évidemment, disponible au téléchargement comme toutes les autres et pour une durée indéterminée. Et alors pour une fois, il n'est pas certain que nous changions de décor samedi prochain puisque c'est pour parler de Philippe K. Dick qu'on a évoqué implicitement quand on a évoqué Matrix hein, avec vous Gilles Verviche, puisque le scénario du film Matrix est tiré de l'œuvre de l'écrivain américain. Donc c'est avec Philippe K. Dick, l'écrivain vertigineux et abyssal, que Qui Vive vous donne rendez-vous samedi prochain de 15h à 16h. Philippe K. Dick et ses mondes parallèles que nous prenons à tort pour autant d'illusions. Pas de morale de l'info la semaine prochaine, exceptionnellement. C'est lundi 2 janvier que j'aurai le bonheur de vous retrouver dans la matinale de Thomas Soto, du lundi au vendredi. Mais pour l'heure, chers auditeurs, débouchez donc la bouteille que, modérément, vous avez dans la main. Enlevez vos chaussures et rangez vos pieds à hauteur de tête. Bref, allongez-vous. Europe 1 s'occupe du reste et dépêche pour votre agrément ses deux meilleurs DJ, Émilie Mazoyer, Jean-Philippe Ballas, en bottines et costume rouge. C'est tout de suite. À vous de jouer, les amis.
Bonjour et merci Raphaël. Restez avec nous, on vous a préparé une petite programmation spéciale Noël dans l'Europe 1 Music Club.